Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un podcast, pour un épisode qui me tient beaucoup à cœur, pour plusieurs raisons que je vais te donner juste après. Sache quand même, malgré tout, que pour t'enregistrer cette introduction, j'ai dû couper mon ventilateur. Et que, crois-moi, il fait très chaud, j'imagine qu'il fait également très chaud chez toi. Et donc, cette introduction, a priori, ne va pas durer 5 minutes, parce que je ne vais pas tenir 5 minutes sans le ventilateur allumé. Donc j'espère que tu vas bien et j'espère que tu survis à ces chaleurs absolument épouvantables. Si tu es en ville, j'imagine que c'est encore pire pour toi. Moi aussi, je suis à Lyon en ce moment et il fait vraiment, vraiment très chaud. Mais bon, je ne vais pas parler 3 minutes de la canicule parce qu'on parle assez de canicule toute la journée. Donc je vais plutôt t'introduire cet épisode, donc comme je te le disais, qui est un peu spécial pour moi, qui me tient beaucoup à cœur pour deux raisons principales. La première, c'est que, comme tu l'as vu dans le titre du podcast, on va parler bilan de 40 ans d'entrepreneuriat, c'est quand même pas rien. Et du coup, je suis très contente de te proposer cet épisode parce que je pense que, j'espère en tout cas que tu vas apprendre beaucoup de choses. Je pense tout du moins que si tu n'as pas toi-même des années et des décennies d'expérience d'entrepreneuriat, ce podcast pourra t'être très utile pour avoir des conseils et aussi pour anticiper des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on débute, quand on se lance, parce que tout simplement on n'a pas, entre guillemets, à penser à ça tout de suite. Mais voilà, typiquement les cessions d'entreprise, etc. Et ça va d'autant plus t'intéresser si tu as une vision à terme, ou si tu es déjà, bien sûr, une TPE, ou plus que ça, mais voilà, si tu as une vision, peut-être si tu es freelance, d'après faire une agence ou quelque chose comme ça. Deuxième point, ça me tient énormément à cœur puisque dans ce podcast, la personne que j'interviewe, eh bien, c'est mon papa. Donc du coup, évidemment, ça peut que me tenir à cœur. Donc je vais pas te faire une intro très longue parce que j'ai pas de ventilateur, mais aussi parce que papa va tout t'expliquer, enfin pas tout parce que 40 ans c'est très long, mais il va t'expliquer sa carrière et te recontextualiser les choses pour que tu comprennes bien. En tout cas, ce podcast, j'en ai eu l'idée il y a quelques mois, et j'osais pas trop franchir le pas, pour être honnête avec toi, parce que, bon, je sais pas, c'était particulier d'avoir cette discussion père-fille et de la publier sur internet. J'étais pas forcément à l'aise avec ça, et j'ai passé le pas, parce que je pense que c'était quand même très, très utile, que ça pouvait apporter beaucoup de valeur, et je suis très contente de l'avoir dans le podcast Bien dans ta boîte, parce que je pense que ça sera définitivement un des épisodes, avec celui de Danilo Duchesne par exemple, ou de Yeza, qui sont certainement les plus constructifs, puisqu'ils t'apportent par définition des conseils comme moi je peux le faire, mais là t'as aussi un retour d'expérience et une autre vision que la mienne sur Bien dans ta boîte. C'est d'autant utile qu'évidemment là on parle sur une grande période d'entrepreneuriat, puisque mon père a donc été entrepreneur pendant 40 ans. J'aurais pu aller chercher d'autres entrepreneurs qui l'ont été toute leur vie, mais là en l'occurrence c'était plus simple. Et il y a aussi des spécificités à son parcours, à savoir que c'est une TPE familiale, donc tu le verras dans le podcast, enfin tu l'entendras plutôt dans le podcast. Je lui pose aussi des questions spécifiques à cette question-là. Comment on gère la relation de couple quand on travaille ensemble? Comment on gère la relation, en l'occurrence père-fils, quand on reprend l'entreprise de son père? Mais ça marche évidemment pour père-fille, mère-fille, mère-fils, parents-enfants, voilà, tout simplement. Il y a aussi la spécificité d'une TPE qui est rurale, puisque nous sommes originaires de Drôme Provençale, et en l'occurrence d'un tout petit coin où il n'y a pas énormément de monde. Donc c'est aussi comment on gère une TPE en zone rurale, comment on gère l'arrivée d'Internet quand du coup on fait face à une concurrence qu'on n'avait pas avant, puisque l'avantage de la zone rurale, c'est que certes, il y a un peu moins de clients, mais il y a aussi du coup moins de concurrents. Comment on gère une clientèle qui est passée du père au fils et qui évolue aussi avec le temps? On en parlera un petit peu dans le podcast. Mon papa avait donc des entreprises automobiles, et donc j'ai moi-même plusieurs étés où je travaillais avec lui, assisté à des clients qu'il fallait à la pompe à essence servir à la main, puisque c'est des personnes qui ont été habituées à ce service et qui ne savaient absolument pas se servir de l'essence seule, et alors encore moins aux automates 24-24, puisque certains n'ont même pas de carte bancaire. Bref, je ne vais pas te spoiler tout le podcast maintenant, tu vas découvrir tout ça. Sache aussi que tu vas trouver dans l'article de blog associé ou dans la description selon la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, le sommaire avec les questions que je lui pose, que j'ai essayé de te regrouper en grandes catégories avec un volet business, un volet famille, un volet développement personnel, professionnel, un volet gestion, etc. pour que tu t'y retrouves un peu. Et bien sûr, avec les chronos, les timers à chaque fois pour que tu puisses directement aller à une question qui t'intéresse plus ou revenir à une ancienne question si c'était pas clair pour toi, tu veux la réécouter. Voilà, j'ai essayé de l'organiser au mieux parce qu'il parle beaucoup, il te donne énormément de contenu et du coup, je pense que sans sommaire, c'est vite le bordel, pour être poli. Donc voilà, tu as ce sommaire. J'espère du coup que ce podcast va te plaire. Sache aussi que dans l'article de blog associé, je t'ai mis les très grands points à retenir pour que tu puisses aller à l'essentiel tout de suite ou ne pas oublier l'essentiel à la fin de cette écoute, mais évidemment, je t'invite à l'écouter en entier. Je te laisse donc avec l'épisode, j'espère qu'il va te plaire. Je te souhaite une très bonne écoute et puis je te retrouve un tout petit peu à la fin pour la conclusion. Papa, merci de répondre à mes questions pour bien dans ta boîte et de perdre ton dimanche soir à faire ça. J'ai posé la question à nos auditeurs, auditrices la semaine dernière sur le groupe privé Facebook et sur Instagram, des questions qu'ils voulaient te poser. Donc du coup, pour que tu nous fasses profiter pleinement de ces 40 ans d'expérience, avant que je te pose les questions, est-ce que tu peux quand même nous parler un peu de ta carrière dans les grandes lignes, des grands événements qui l'ont jalonné pour qu'on ait le contexte ?
Oui, alors 40 ans c'est long. C'est une longue histoire, donc je vais faire bref parce que sinon ce serait vraiment très long. Donc 1978, c'est la date de mon arrivée dans l'entreprise familiale à Montbrison. Une entreprise créée en 1958, donc par ton grand-père. Une entreprise de réparation automobile, de station-service, vente de véhicules. Je m'y suis impliqué rapidement et rapidement je m'y suis senti à l'étroit. Okay. Donc dès 1982, j'ai ouvert avec l'aide de ta maman parce que c'est une histoire de famille et c'est une histoire de couple aussi. Et c'est aussi donc grâce à elle tout ça, il faut quand même bien le souligner. 1982, donc un magasin de pièces détachées. Qui se trouvait à Valréas, qu'on a développé pendant plusieurs années. C'était à cette époque-là une nouveauté parce que c'était un magasin de pièces détachées en libre service. Donc c'était vraiment une nouveauté sur le secteur automobile. On a rapidement évolué dans la location de véhicules, d'abord avec Europcar et ensuite chez Hertz. Et ensuite on a intégré le réseau ADA. Et là, l'expansion a été assez forte puisqu'on a ouvert plusieurs agences. Après Valréas, on a ouvert Montélimar, Pierrelatte, Aubenas, avec une cinquantaine de véhicules en location. Parallèlement à ça, en 2000, j'ai racheté donc l'agence Renault de Grignan, que tu connais bien évidemment. 2010-2015, donc là, c'est la période peut-être la plus importante de ma carrière puisque j'avais gardé à la fois l'affaire familiale à Montbrison, j'avais développé la nouvelle agence Renault à Grignan qui était vraiment montée en puissance et puis les agences, nous avions à ce moment-là la totalité des agences de location. Donc c'est vraiment une période, la période la plus importante au niveau de la carrière. Après 2015 par contre, on a décéléré, on a commencé à vendre les entreprises pour se libérer bien évidemment. Voilà.
Alors j'ai juste du coup une question déjà d'emblée que j'avais pas prévu mais qui me vient, c'est juste parce que tu as bien pris le temps de souligner que l'entreprise tu l'as récupérée de ton papa, que maman est rapidement venue en soutien dans ta carrière professionnelle. Et est-ce que tu dirais que tu aurais pu avoir la même carrière si tu n'avais pas eu ce contexte familial autour de toi ?
Pour moi, ce contexte familial fut fondamental. Je pense que dans la TPE, la puissance familiale est globalement un atout. Et effectivement, bon, ça a aussi des contraintes. Hein.
Oui.
Reprendre l'affaire de son père, c'est pas toujours facile. Il y a des effets, un effet générationnel. Il y a voilà, des fois des orientations qui peuvent porter à discussion. Mais globalement, c'est quand même plutôt un atout pour réussir.
Parce que tu dis que quand tu as repris l'entreprise, tu t'es vite senti à l'étroit. C'était quoi être à l'étroit? C'est qu'il n'y avait pas assez de services proposés? Tu avais une autre vision?
Oui, c'est que je voulais monter en puissance, je voulais grossir, et là où était située cette entreprise, il n'y avait pas une possibilité de croissance importante. Donc, il fallait aller voir ailleurs, quoi.
Ok. Alors, la question qui m'a été beaucoup posée et qui va très bien dans la continuité, parce que tu as expliqué le garage, les pièces détachées, la location automobile à notre garage, etc. C'est comment tu as géré justement ces pivots d'activité, et surtout la question derrière, c'est comment on s'adapte à un marché. Parce qu'en 40 ans, forcément, ce marché, il a énormément changé. Donc, comment on s'adapte à un marché qui bouge?
Oui, c'est absolument fondamental. L'adaptation, elle est permanente. Il a fallu évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que ce soit la vente de véhicules, que ce soit la vente de pièces détachées, que ce soit la location, tous ces secteurs-là ont bougé d'année en année. Donc, effectivement, il faut être en permanence sur les faits, sur les évolutions des marchés, pas perdre la performance, parce que ça va très vite. Et ça allait vite à mon époque, et aujourd'hui, ça va encore beaucoup plus vite.
Ouais.
C'est-à-dire que à l'époque, moi, j'ai géré les affaires, c'était les concepts 7 à 10 ans. Grosso modo, moi, j'ai remis en cause, entre 7 et 10 ans, j'ai remis en cause chaque fois les concepts. Quoi.
Ouais.
Aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt 3 ans, 5, entre 3 et 5.
Et alors, justement, tu dis, ok, être à l'écoute du marché, des faits, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une part chez toi, en tout cas, qui a été un peu d'intuition? Enfin, comment tu sens que le vent va tourner, quoi? Comment tu te dis, est-ce que je détruis tout ce que j'ai fait?
Je crois que avoir du nez, c'est la qualité essentielle de l'entrepreneur. Avoir une espèce de flair.
Ouais.
La location de véhicules démocratisée à prix discount, quand le réseau ADA s'est lancé, j'ai vraiment été un des premiers franchisés. Hein, on était peut-être une trentaine, je crois, quand on a lancé ce réseau. Et j'avais senti que ce métier-là allait se démocratiser, que la location de véhicules allait être différente, devrait évoluer. On n'était pas encore à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais,
hein,
ouais.
La location partagée des particuliers, etc. Mais j'avais senti ça. Et c'est vrai que, je crois qu'il faut vraiment se sentir, il faut connaître son métier à fond, s'informer, sentir pour pouvoir réagir très vite. Parce que ça peut être fatal. Et par exemple, tu vois, nous, les agences de location, je les ai vendues il y a quelques années, avant que le marché éclate avec de la location en particulier, avec les discounters de les grandes surfaces qui ont pris une bonne part du marché. J'ai eu le flair de vendre à ce moment-là.
Alors du coup, tu me fais une transition, puisque voilà, tu disais, selon toi, que toi, quand tu as géré les affaires, grosso modo, le concept c'était 7-10 ans, et que selon toi, aujourd'hui, on est plutôt à 3-5. Donc il faut être réactif.
Oui, il faut être très très réactif, et je pense que c'est l'évolution d'Internet, du web, de l'économie numérique qui a absolument accéléré les choses. On le voit, je l'ai vu sur les dernières années dans la vente automobile, où le facteur vente véhicule par Internet, où est l'affaire familiale qu'on a à Montbrison-sur-Lest, au cœur de la Drôme provençale, dans un petit village, et je vendais des voitures à Strasbourg, à Toulouse, à Brest, à Paris, à Lyon, et ça c'était grâce à la puissance d'Internet. Donc j'avais largement élargi. Par contre, tu as aussi la multiplication de la concurrence.
Alors du coup, ça me fait une transition pour la question très intéressante que Pierre a posée sur le groupe privé Facebook. Et il te demande, est-ce que tu vois plus d'opportunités aujourd'hui, ou est-ce que tu voyais plus d'opportunités il y a 40 ans?
Non, je pense qu'aujourd'hui, alors il y avait des opportunités il y a 40 ans, elles étaient évidemment différentes. Moi, je suis plutôt optimiste pour la situation aujourd'hui, des opportunités il y en a eu, il y en aura. Les marchés évoluent, c'est très différent. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là.
Est-ce qu'il faut être optimiste pour être un bon entrepreneur?
Ah oui, c'est fondamental. Parce que c'est l'optimisme qui te pousse à créer. Par définition, si tu es pessimiste,
quel intérêt de le faire,
hein. Voilà, tu vas trouver des arguments sans cesse pour dire non, il ne faut pas faire ça, parce que si, parce que là. L'optimisme, alors il faut de l'optimisme raisonné, équilibré, pour ne pas te lancer dans des aventures qui te mèneraient à la catastrophe.
Ouais,
mais il faut être quand même d'un tempérament plutôt optimiste. Un optimisme réaliste.
Réaliste, ok. Quelle importance ton état d'esprit a-t-il eu sur ta réussite? Ça aussi, c'est une question qui est posée sur le groupe privé. Quelle importance ton état d'esprit a-t-il eu sur ta réussite?
La réussite, c'est quelque chose de relatif.
Oui.
Non, c'est difficile de répondre à ça. Je crois que tu te bâtis et tu bâtis ta conception d'entrepreneur au fil de l'eau, au fil des années, au fil des rencontres, des réseaux, etc. Et tu te construis d'année en année et ton efficacité s'améliore dans le temps. Je pense qu'il y a des erreurs que j'ai pu commettre les premières années, qui n'ont pas été fatales, heureusement pour moi, mais c'était quand même des erreurs que j'ai pu éviter les dernières années, à la fois par les connaissances que j'avais acquises et par les réseaux, et ça c'est vachement important, les réseaux que j'ai pu constituer autour de moi, et qui ont pu m'apporter des aides, des conseils, etc.
Ouais, ouais. Et comment tu le constitues, ce réseau?
Le réseau, il se constitue au fil de l'eau, et au fil des années d'activité, mais il faut être à l'initiative des rencontres, c'est-à-dire ne pas hésiter avec ses propres fournisseurs, avec ses financeurs, avec ses clients, avec la société en général. Il faut que tu sois pénétré. Je pense qu'il faut qu'un entrepreneur, par définition, il faut qu'il soit impliqué dans la vie sociale, dans les associations, etc. Alors, c'est pas facile, parce que quand tu es entrepreneur, tu travailles déjà beaucoup. Ouais. Mais c'est un point essentiel de la réussite de l'entrepreneur. J'en suis vraiment convaincu de ça.
Et alors, juste dans l'importance de l'état d'esprit, nos auditeurs, auditrices ne pouvaient pas te poser la question parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je pense que la question que je vais te poser peut les intéresser. C'est la question du rapport au risque. C'est que, en tout cas, moi, de mes yeux d'enfant, j'étais quand même toujours vu comme quelqu'un qui... Je trouvais avait un rapport justement juste au risque, qui n'a jamais pris des risques complètement irraisonnés, comme tu l'as dit juste avant, mais qui a su aussi des fois un peu dire bon bah allez, je prends le risque, on verra quoi. Et comment tu gères ce rapport au risque? Est-ce que c'est important pour toi, enfin selon toi, qu'un entrepreneur prenne des risques? Quelle est ta vision toi sur cette question de
Par définition, un entrepreneur, déjà dans la philosophie, il prend un risque. Qui est entrepreneur, ça veut dire indépendant. Tu es face à ton destin, donc le risque, il est déjà là. Après, tu le gradues en fonction de l'ambition que tu peux avoir. Et effectivement, j'ai jamais pris des initiatives complètement farfelues, mais j'en ai pris, des fois j'ai pris des risques, en rachetant des affaires. Il faut que ce soit mesuré, mais voilà, cette partie risque, elle est intégrée totalement à l'entrepreneur. Et à un moment donné, tu dis, j'y vais, quoi.
Ouais.
Mais il faut le mesurer. C'est peut-être aujourd'hui, ça peut être un peu plus difficile aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans.
Pourquoi?
Je dis peut-être. Parce que tu pouvais peut-être plus facilement. Aujourd'hui, la société, sur le plan du fonctionnement, on joue moins la confiance. C'est-à-dire que, pour résumer, un banquier, aujourd'hui, il te suit avec un bilan. Des ratios, on te passe ton bilan dans une moulinette, il y a des ratios qui sortent, et s'ils ne sont pas bons, on te dit, rétablissez vos comptes, machin, etc. Il y a seulement 30 ans, tu pouvais convaincre un banquier qui te demandait déjà, ils avaient moins de technicité, ils jouaient plus la confiance humaine. Et aujourd'hui, t'as beau être le meilleur entrepreneur et tout, si tu n'as pas, pour le lancement, un business plan costaud, et si après tu n'as pas des bilans consolidés avec des fonds propres. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'il y a 30 ans. S'il y a un point qui est plus difficile, c'est celui-là. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on ne peut pas faire. Il faut faire différemment, il faut être plus pointu en fait.
Il y a une autre question intéressante qui a été posée sur le groupe, où elle te demande à quoi tu n'avais pas pensé quand tu t'es lancé, notamment en termes de difficultés et d'échecs éventuellement, et que tu pourrais faire partager aujourd'hui. Tu as parlé par exemple tout à l'heure d'erreurs que tu as pu faire au début.
Mmh. Bah, j'ai essayé de cerner au mieux, puisque globalement ça s'est quand même bien passé. Mais si, je dirais justement le manque de capacité financière. J'ai toujours sous-évalué les besoins en trésorerie, en fonds propres.
D'accord.
En me disant, ouais, on va y arriver, on va passer le cap, etc. Mmh. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit, mais j'ai quand même eu des périodes de tension financière où c'était un peu limite. Oui, vraiment évaluer ses besoins en fonds propres, en capacité financière. Là-dessus, je pense que j'ai toujours visé un peu court. C'était peut-être mon optimisme, de dire, ouais. Sûr,
ça passera.
Ça va passer, etc. et ça a passé, mais voilà. Et compte tenu du fait de ce que je viens de te dire précédemment, c'est-à-dire avec les milieux financiers qui maintenant n'ont pas d'autres solutions que de travailler avec des liasses fiscales, des ratios, etc. Moi, j'ai eu des époques où mes ratios étaient très moyens. Hein. Mmh. Mais le banquier me suivait parce qu'il me connaissait, parce qu'il savait que j'étais un entrepreneur malgré tout sérieux, et que s'il y avait une difficulté, je m'engagerais perso, je trouverais les solutions, etc. Mais ça, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué.
Alors, question, puisqu'on reste dans la dynamique des qualités, etc., et spécifique à la TPE, quelles sont les qualités pour toi qui sont nécessaires à la gestion d'une TPE ?
Il faut aimer travailler. Ça, c'est l'évidence même. Si tu n'aimes pas bosser, ce n'est pas la peine d'être entrepreneur. Ouais. Il faut être passionné, il faut être ouvert, tolérant, parce que c'est du compromis sans cesse. Mmh. C'est sans cesse du compromis, compromis avec tes clients, compromis avec tes fournisseurs. Donc, si tu ne sais pas faire ça, c'est vraiment un handicap. Donc, oui, les qualités, ces qualités-là, elles sont essentielles. Oui.
Et justement, j'ai une question spécifique à la TPE, c'est comment tu construis la relation employeur-employé en TPE, qui est évidemment pas du tout la même que dans un grand groupe.
C'est un point fondamental, essentiel dans la réussite d'une TPE, parce que effectivement, on n'est pas dans un groupe, il n'y a pas de cadre intermédiaire pour faire de la négociation sociale. Donc ton salarié, c'est quelqu'un avec qui tu dois échanger au quotidien, c'est-à-dire impliquer, expliquer. Ça ne veut pas dire que ton salarié devient un copain, tu as su comment je fonctionnais. Ouais. Mes salariés ne sont jamais devenus des amis. J'ai toujours gardé une certaine distance pour éviter, je pense que voilà, ça n'empêchait pas la proximité. Hein. Mmh. Et puis, la preuve que ça a marché, puisqu'il y a un salarié, moi, en 40 ans, il y en a un qui a fait les 40 ans. Ouais. Cette personne était impliquée, même s'il n'avait pas toutes les responsabilités que j'avais. Mmh. Je crois qu'il faut... Il faut impliquer les salariés, il faut... Mais c'est une gestion difficile, ça. C'est vraiment, je pense, un des points les plus délicats pour trouver un point d'équilibre sur le plan relationnel. Parce que certains patrons de TPE ont tendance à dire, bon, comme c'est une petite boîte, je vais en faire mon copain, il viendra boire l'apéro à la maison, machin, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et à côté de ça, il ne faut pas non plus avoir une distance parce qu'on est quand même tous dans la même barque.
Et en l'occurrence, parce que c'est quand même incroyable ce que vous avez pu vivre avec Michel, d'avoir fait ses 40 ans côte à côte. C'est ton père même qui l'a embauché ?
Oui, deux ans avant. Ouais, il est rentré deux ans avant moi. Il a même fait 42 ans.
Ouais, donc il va même rester plus longtemps que toi. Ouais. Et est-ce que tu penses aussi qu'il y a une vision du travail commune qui a permis aussi que vous collaboriez aussi longtemps et aussi paisiblement ? Parce qu'en plus, au-delà de...
Ben, je crois que oui, la passion commune, c'était la qualité de service, le sérieux qu'on devait apporter auprès de nos clients, les satisfaire. Si j'ai réussi quelque chose, c'est d'avoir vraiment une clientèle de confiance. Et tu le sais comme moi, que puisque tu as participé certains étés aux travaux, beaucoup de clients sont des amis, quoi. Sont devenus des... pas des amis, mais et surtout ce climat de confiance du fait que quand on pouvait annoncer à un client, ben, vous en avez pour tant d'euros.
Vous faites confiance.
Ouais, que la personne en face dit oui, ben, s'il me demande 500, c'est que ça vaut 500. Donc ça c'est fondamental. Et Michel, par exemple, avait cette philosophie-là. Mais je pense que je suis arrivé à l'inculquer quand même globalement à l'ensemble des équipes. Parce que si j'ai au moins une fierté, c'est d'avoir fait reprendre mes affaires par mes salariés. Jean Sadat, Montélimar, c'est Alain. À Grignan, c'est Nicolas qui a repris, chef d'atelier. À Montbrison, c'est Stéphane et Sébastien qui ont repris. Que s'ils ont repris mon entreprise, c'est que j'ai quand même fait passer quelque chose. Parce que si, pour eux, l'engagement, ils sont passés quand même de salarié à entrepreneur. Donc c'est une étape importante. Bon, certains ont plus de difficultés que d'autres à s'adapter. C'est évident, mais je pense que c'est par cette façon de fonctionner que les salariés ont eu envie de continuer mon aventure après moi.
Ah, là aussi, question que je n'avais pas prévue, mais à mon avis, si je ne la pose pas, on va me dire dans les commentaires que j'aurais dû la poser. c'est comment on gère la cession de son entreprise, et particulièrement celle qui était aussi celle de ton père. C'est comment on gère de quitter son bébé, parce que c'est un peu ton bébé quand même, cette entreprise, quoi. Ouais.
Il faut y réfléchir et l'anticiper. Et comme tu as pu le remarquer, moi, les dernières années, au lieu de fléchir, j'ai investi. C'est-à-dire que pour les céder, je les ai modernisés, je les ai équipés, je me suis endetté pour pouvoir transmettre des entreprises saines, performantes. Parce que tu vois des situations où les gens disent « Ouais, j'arrive pas à vendre mon entreprise, mais pour vendre une entreprise aujourd'hui, et pour que tu aies un repreneur, il faut que l'outil il soit performant. » Mais c'est surtout ça demande aussi une anticipation, une préparation psychologique du fait que, admettre que tu n'es pas là pour l'éternité, et savoir transmettre au bon moment, pas attendre que... Parce que la fatigue... Vincent, c'est normal, hein, au bout de 40 ans. Et j'ai, à un moment donné, pris la décision de céder mes affaires parce que, justement, je sentais que j'avais plus suffisamment la niaque pour rebondir, pour me réadapter au nouveau marché. Et donc, j'avais senti qu'il fallait que je passe la main. Et ça, je crois que oui, pour un entrepreneur, c'est aussi savoir, à un moment donné, dire « Il faut que je passe la main parce que j'ai plus le... j'ai plus suffisamment la niaque. » Parce que là, le fait d'attendre, tu peux justement rentrer dans une spirale défavorable de baisse de chiffre d'affaires, de perte de clients, de perte de dynamique, de dynamisme plutôt.
Voilà. Est-ce qu'un conseil que tu pourrais leur donner, c'est le fameux adage « le client est roi » au sens où je le sais, pour avoir bossé avec toi, tu étais toujours intransigeant sur le fait qu'on est réglo avec les clients, on bichonne entre guillemets nos clients, toi tu donnais des véhicules de prêt pour qu'ils puissent rentrer chez eux, etc. quoi.
Alors, le client est roi, j'aime pas tellement le terme, parce que ça veut dire que
il a le droit à tout, quoi.
Voilà, droit à tout, et dans certains cas tu as pu constater que je le faisais, dans certains cas peux être amené aussi, en étant un chef d'entreprise, dire à un client, bon monsieur, maintenant ça va, quoi.
On arrête.
Donc roi, c'est pas le terme, mais principalement dans une TPE, tu construis vraiment ta clientèle autour de la confiance, de la relation. Nous, on a aussi la spécificité rurale. Je pense que
il y avait aussi un fonctionnement
dans une grosse agglomération, peut-être que les approches clients ne sont pas les mêmes, mais voilà.
Là, il y avait aussi la spécificité. Par exemple, pour redonner le contexte à ceux qui nous écoutent, tu avais des clients qu'il fallait servir à la pompe à essence parce que c'était des personnes âgées qui ne pouvaient pas se servir toutes seules et qui venaient déjà à l'époque de ton père et qui étaient habitués à ce service, quoi.
Oui, parce qu'on a évolué sur le plan des techniques, mais c'est évidemment qu'aujourd'hui, les carburants, ça se sert avec des automates et on était arrivé à ça. On a mis en place un automate 24h/24, machin, etc. Mais je continuais à prendre soin que des personnes âgées ou des gens qui avaient des problèmes de mobilité, etc. On prenne toujours le soin d'aller les servir, etc. Et ça, c'est justement la spécificité de la TPE, proche des gens, proche de ses clients.
Alors, je reviens sur un volet familial. parce que ça peut pas le décorréler. Une question qui me vient, et que je crois même d'ailleurs que je t'ai jamais posée, en dehors de ce podcast. Ouais. Est-ce que, surtout quand t'étais jeune et que t'as repris l'entreprise, est-ce que t'as pas été systématiquement comparé à ton père ? Est-ce que ça a pas été compliqué pour toi, dans la filiation père-fils, là, de... Ouais. Parce que vous étiez aussi... Il y avait tes deux frères, hein, aussi, on l'a dit au début.
Au début, mais... enfin, oui, pas très longtemps, mais au début, oui. Oui, oui, ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, t'as la... Tu as la référence sans cesse. Donc ça, il faut savoir le gérer. C'est peut-être aussi ce qui m'a donné aussi envie
d'aller voir ailleurs,
d'aller voir ailleurs, de créer mes propres boîtes à moi, ouais. Etc. Parce que le poids familial, indéniablement, est aussi un peu lourd à porter. Ouais. Donc...
Ouais. C'est d'avoir des clients qui disent « Ah, bah oui, mais avec votre père...
» Oui. Mais c'est inévitable.
Et lui, il a su, quand il t'a cédé l'entreprise, il a su après se mettre en retrait ou il était quand même un peu...
Non, il a été vraiment d'une qualité... Enfin, il a été assez formidable de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, en 1978, quand j'ai pris des parts dans la société, et qu'il a pris officiellement sa retraite, il s'est dégagé de tout. Alors, il a continué à apporter des conseils, à nous aider, à donner un coup de main, etc. Mais il n'a pas fait d'ingérence. Il a été assez remarquable parce que...
C'est son entreprise.
Son entreprise, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils se sont installés dans les années 30, etc. Donc, le risque était... Surtout que j'étais quelqu'un avec un gros tempérament et une autorité certaine. Donc, ça aurait pu très mal se passer, en fait. Et ça s'est... ça s'est quand même bien passé. Même si moi, quand même aussi, effectivement, j'ai voulu, puisqu'après, toutes les autres activités que j'ai créées, c'est à titre perso,
ouais, bien sûr.
Avec l'aide de ta mère. Je précise toujours, ça. C'était une affaire de couple aussi. Et ça, c'est important aussi dans une TPE. Et c'est difficile aussi.
Oui, ça aussi, bah, tiens, je vais te la poser, parce que sinon, on va me reprocher de ne pas la poser, ils auront raison. Tu as un registre un peu plus... matrimonial, et c'est comment on gère une relation de couple quand on non seulement on travaille ensemble et en plus on dirige ensemble.
Ça c'est vraiment très très compliqué.
Ouais.
C'est vraiment très très compliqué. Ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est que comme on avait plusieurs entreprises, ta maman s'occupait quand même plutôt de la partie des agences de location, et Dieu sait si c'était déjà avec Valréas, Aubenas, Pierre Latte, Montélimar. Donc ça, c'était vraiment elle qui gérait ça totalement. Et moi, je gérais plutôt les garages, l'agence Renault et l'agence de Montbrison. Donc du coup, on a quand même malgré tout toujours... on a travaillé ensemble, on s'est réparti les rôles, mais on ne passait pas nos journées ensemble.
Ouais.
Mais oui, ça, c'est extrêmement difficile à gérer. La réussite n'est pas facile à faire. Et puis, le risque aussi, tu as pu... toi-même le vivre aussi, c'est ramener le boulot
à la maison,
au déjeuner, au dîner, au petit déjeuner.
Des fois, je dis en rigolant que mon souvenir des repas avec mes parents, c'était les impayés, l'URSSAF. Voilà.
Et ça, malheureusement, on avait beau dire oui, il faut faire attention, mais c'est quasiment inévitable. T'as reçu un courrier de l'URSSAF, machin, à 11h, tu te rencontres à midi pour le déjeuner, ben, tu vas parler de l'URSSAF pendant le déjeuner. Quoi. Même si c'est pas...
Même si c'est pas glamour.
Ouais. C'est pas glamour.
Et vous avez quand même des tempéraments très différents, tous les deux. Est-ce que tu penses que, quelque part, vous êtes complétés ? Est-ce que tu penses qu'elle t'a aidé en étant différente ?
Ah oui, absolument. Quand tout à l'heure, tu parles de réussite relative, comme tu te dis, parce que qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Réussir sa vie...
selon nos critères.
Voilà, selon nos critères. Donc ça, déjà, je suis un peu prudent là-dessus. Mais toujours est-il que ce que j'ai pu faire, c'est vraiment grâce à elle, à son appui, à sa confiance, puisque...
Il fallait te faire confiance.
Ouais. Voilà, et moi, j'étais plutôt le fonceur, la boîte à idées.
l'entrepreneur,
et elle n'était pas quand même dans ses gènes. Par contre, sens de l'organisation, l'administration, les papiers, etc. Et c'est malheureusement une tâche ingrate mais indispensable dans une TPE que tu ne peux pas négliger. Et ça, elle était absolument formidable.
Et pourtant, toi, tu as quand même une solidité comptable par ton parcours et tes connaissances, etc. Je fais une aparté. Est-ce que ça t'a quand même aidé, toi, de maîtriser la comptabilité ?
Ah oui, voilà, oui, absolument.
Parce que ça, c'est toujours un point compliqué pour les entrepreneurs.
Puisque ma formation initiale n'est pas mécanique auto, mais la gestion. Et le fait d'avoir des connaissances de gestion, de lecture de bilan, d'analyse de compte de gestion, etc. Après, je me suis aussi amélioré au travers du temps. C'est vrai qu'un entrepreneur qui n'a pas cette notion-là, il faut qu'il soit, appuyé.
Ouais. Ouais, il faut bien choisir son comptable.
Ouais. 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 Mm. Parce que c'est, enfin, les comptables, je suis prudent sur les comptables. Il faut une personne qui appuie. C'est pas toujours le comptable, parce que d'accord. Le comptable, il a une vue tellement repliée de la partie purement comptable. Ils font souvent des erreurs parce qu'ils s'appuient que sur la partie comptabilité et pas d'analyse de gestion. Je le vois avec les entreprises qui ont été reprises et les cabinets comptables qu'ils ont. C'est des cabinets, ils sont très compétents dans la comptabilité, mais ils sont peu compétents en termes de conseil de gestion.
Donc peut-être quelqu'un qui fait plus de la stratégie d'entreprise, stratégie financière.
Ça aujourd'hui, c'était important à mon époque, et je crois qu'aujourd'hui c'est encore plus important.
Ouais.
Alors après, ça dépend aussi de la taille de la TPE, parce que TPE...
Oui, si on est deux...
Oui, voilà, c'est pas quand même la même problématique que si on est 10.
On est 10, oui. Et alors juste aussi, tu as dit... alors je sais plus comment tu l'as dit, donc je vais pas déformer ton propos, mais ma question c'est, si tu as dit c'était pas dans ses gènes, et du coup la question qui me vient c'est, est-ce que pour toi tout le monde peut être un entrepreneur, ou est-ce que malgré tout il y a quand même des tempéraments, personnalités qui se prêtent mieux à ça?
Je pense que beaucoup de gens peuvent devenir entrepreneurs, mais il faut quand même quelques critères de base qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'on va peut-être pas répéter, mais l'envie, la passion, l'audace.
Ouais.
Est-ce que tous les êtres humains ont ça? Je ne sais pas. Donc il faut avoir ça. Après, moi j'ai connu des gens qui n'étaient pas du tout d'origine. Nous on a quand même
La fibre familiale.
On a quand même la fibre familiale, l'entrepreneuriat,
de père en fils et
voilà,
en fille.
Donc ça c'est voilà. Et mes propres enfants sont entrepreneurs aussi. Donc c'est vrai que c'est dans nos gènes, je dirais. On ne peut pas répondre totalement à ça.
Ah, tu me fais une très belle transition avec une autre question de Pierre qui est très intéressante, où il te demande justement quel rapport tu as avec tes enfants qui entreprennent. Parce que donc pour nos auditeurs, auditrices, mon frère aussi, qui est plus vieux que moi, qui a 35 ans, et lui aussi à son compte depuis une dizaine d'années.
Mais c'est vrai que sur ce plan-là, je dirais que je me suis servi de l'exemple de mon père, peut-être. Enfin, je ne sais pas le ressenti que vous avez, parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Mais c'est de vous apporter du conseil, de l'aide, de mes minces compétences, mais sans me mêler de vos choix, de vos envies. Déjà vous avez fait des choix de profession qui sont pas qui sont différents, mais c'est apporter de l'aide, de l'appui, savoir que voilà, je modestement je peux apporter ma contribution sans me mêler, de dire ah mais vous devez faire ça, vous devez faire, enfin je pense que je
m'en sans suis... ingérence,
voilà, j'ai pas fait d'ingérence dans vos choix, parce que j'ai pas à en faire d'abord, mais par contre je pense que oui, je peux être utile,
Bien sûr, hein.
Et puis que je vois que vous en servez assez souvent.
On n'hésite pas à appeler quand il y a besoin, toi, du moins. Voilà. Et il y a une certaine fierté, satisfaction ou
Fierté, je ne sais pas si on peut dire fierté, mais satisfaction, oui. Quand tu as été entrepreneur, que ton père a été entrepreneur, et d'avoir la nouvelle génération qui continue à entreprendre. Et puis, en plus, vous êtes tous les deux entrepreneurs dans des nouveaux métiers, dans des nouvelles approches. Donc, c'est une évolution qui est quand même... Qui me plaît bien, quoi.
Bon. Ça prouve que les discussions au repas de l'URSSAF ne nous ont pas dégoûtés.
Ouais, c'est à croire.
Ok. Alors, les dernières questions sur la partie un peu plus coaching, pour se rapprocher de bien dans ta boîte. Au terme donc de ces 40 ans d'entrepreneuriat, si tu devais donner 3 conseils aux jeunes entrepreneurs, alors quand je dis jeunes, pas forcément dans l'âge, hein, mais dans ceux qui se lancent, quoi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil?
3 points.
Ouais.
Envie, parce que sans envie tu fais rien. Sérieux, parce qu'il faut être sérieux, il faut être honnête.
Être honnête, c'est quelque chose que tu as beaucoup dit quand on était gamin, c'est important.
Oui, pour moi c'est un critère fondamental dans la réussite d'une TPE. je dirais aussi audacieux. Bon, j'ai dit envie, alors est-ce qu'envie et audacieux, on peut peut-être le mettre dans le même... Et ouvert au monde aussi, esprit d'ouverture. Esprit d'ouverture large, c'est-à-dire à la fois sur, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois sur les évolutions du métier, c'est-à-dire que tu peux être un très bon pro, mais si tu n'es pas ouvert au monde, si tu n'es pas ouvert aux nouvelles technologies, tout ça va très vite et donc tu peux te retrouver, voilà. Mais ouvert aussi, et ça tu sais que familialement c'est dans nos gènes aussi, c'est ouvert à la société, impliqué dans la vie sociale, impliqué dans la vie locale, impliqué dans son quartier, impliqué dans différents... Parce que je pense que voilà, l'entreprise, la TPE, elle doit être liée au fonctionnement de la vie...
de la vie locale.
De la vie locale, etc. Donc, bon, il y en a d'autres, mais...
Il y en a plein d'autres, mais il y a, plein de questions qu'on pourrait te poser en 40 ans. Mais après, ça va durer longtemps. Et l'habituelle question de fin est plutôt tournée bien-être au travail, du coup... C'est quels sont, selon toi, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux, pour gérer ton bien-être au travail ? Parce que quand même, quand on est dirigeant de TPE, il faut aussi prendre un peu soin de soi au milieu quand même.
Oui, c'est capital, c'est important, c'est-à-dire savoir, quand tout à l'heure je disais il faut être travailleur, il faut l'être, c'est indispensable, mais il faut être capable aussi de savoir, et ça s'apprend, et ben c'est un peu ton métier en fait, justement. C'est savoir se garder des poches de survie quelque part, et d'être en capacité de garder du temps pour soi, pour faire du sport, pour la famille, pour se détendre, parce que ça peut être aussi un rouleau compresseur qui peut t'anéantir complètement. C'est-à-dire que si tu prends pas... Ça, j'ai eu cette force-là, en fait, je pense, parce qu'à une époque, tu l'as constaté, je travaillais peut-être, je ne sais pas, 60 heures par semaine, mais j'avais toujours cette capacité, avec notre chien adoré, d'aller faire des balades, des randos, du vélo, etc. Même si je regrette de ne pas avoir fait suffisamment de sport pendant... j'essaie de rattraper, mais il y a du boulot. Oui, se préserver quand même, attention.
Ça, c'est quand même une force côté enfant qu'on t'a... toujours reconnu, c'est la capacité que tu avais à couper. Ouais. Alors, vous savez, tout à l'heure, tu disais des fois entre midi et deux de discuter avec maman et tout, mais grosso modo, le soir, tu rentrais et on avait vraiment l'impression que tu étais capable de dire bon, ce qui s'est passé au garage, reste au garage et maintenant je passe à autre chose. Et ça, c'est quand même, pour certains, c'est vraiment difficile.
Oui, donc je pense que dans ton métier, il faut que. Oui, c'est un point absolument fondamental, c'est-à-dire je coupe, mais je pense que c'est une des difficultés des entrepreneurs.
Surtout maintenant avec nos téléphones.
Et voilà, tu dois le voir. C'est que, oui, qui plus est, avec l'évolution numérique, les téléphones, les ordinateurs, etc. Tu aurais tendance le soir de rallumer l'ordinateur, de reprendre tes téléphones et de continuer, etc. Et ça, il faut éviter parce qu'à un moment donné, et du coup, c'est ton entreprise qui va le payer. Parce qu'à un moment donné, la fatigue va se faire gagner. Ton objectivité. Sera altéré. Regarde-moi avec toutes les activités, tout l'engagement professionnel que j'avais, j'ai eu quand même des activités associatives importantes en tant que président d'office de tourisme. Donc, à premier abord, on pourrait dire qu'est-ce qui va encore se casser la tête à aller dans la vie associative en travaillant déjà. Ça me permettait aussi de rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux, parce qu'il y a aussi le danger, c'est que l'entrepreneur, il ne vit qu'avec des entrepreneurs. Il fréquente, il boit un café qu'avec des entrepreneurs, il parle de quoi ? De leurs problèmes de banque, de machin, etc. Et le fait de, et c'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, de s'insérer dans la vie sociale, sportive, chacun son truc. Ça peut être la pétanque, le foot, la culture, la peinture, enfin bon, bref, il n'y a pas de limite dans les dérivatifs. Et là, tu rencontres d'autres milieux, d'autres personnes qui ne sont pas du tout liées dans ta profession. Donc, du coup, tu as des conversations qui sont complètement différentes par rapport à ce que tu vis tous les jours. Et ça, moi, ça a vraiment été fondamental pour...
Oui, pour tenir pendant 40 ans.
Mais c'est la raison de ton métier, en fait.
Oui, moi, je cherche à ce que tous ces indépendants soient bien au travail.
Ta mère a sûrement plus souffert que moi sur le plan professionnel, Zinevza, parce qu'elle a eu plus de difficultés à se déconnecter déconnectée entre vie professionnelle et qu'elle avait quand même tendance
ouais.
Voilà, mais moi je m'en fais pas une gloire, hein.
Toi c'est pas quelque chose que t'as appris, ça t'a été un peu naturel de faire ça?
Oui, alors il y a aussi peut-être aussi de l'éducation, la famille.
Oui, toi t'avais grandi là-dedans, maman elle vient pas de là.
Mon père était entrepreneur, mais il a créé une caisse locale de mutuelle agricole, de crédit agricole, il a créé un lycée professionnel, enfin il a été conseiller municipal dans sa commune, etc. Donc moi c'était peut-être l'exemple de voilà.
Oui, parce que maman, il faut préciser, venait pas du tout, pas du tout d'un milieu entrepreneurial.
Et
c'est vrai que, et j'imagine qu'il y a plein des entrepreneurs là qui nous écoutent qui viennent pas d'un milieu entrepreneurial, et que je crois, tu seras d'accord avec moi, de dire que c'est quand même une chance pour nous d'en venir de ce milieu. Enfin, moi, en tout cas, je pense que pour moi, ça a été une chance parce que...
Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? J'ai hésité à répondre de façon...
Tranchée.
Mais ça peut être compliqué.
Bien sûr.
Ta mère vient pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et elle a eu quand même beaucoup plus de difficultés, elle a beaucoup plus eu de souffrance pour s'adapter à tout ça. Donc sur le fond, j'ai peut-être moins de mérite qu'elle, c'est même certain.
Est-ce que tu veux rajouter un truc avant qu'on conclue?
Non, globalement, la vie d'entrepreneur, c'est formidable.
Ça valait le coup de travailler autant pendant 40 ans ?
Oui, je ne regrette pas ça. Que c'est aller quand même au quotidien, ce qui est quand même formidable, c'est que tu as le choix de l'organisation de ta vie, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on sait ce que c'est aussi le monde de l'entreprise, de la grosse entreprise, des contraintes, des contraintes qui sont posées, etc. C'est-à-dire que tu, malgré tout, pour certains, tu vas dire, tu le payes cher, peut-être, mais c'est quand même une belle richesse et qui te permet quand même intellectuellement de te construire. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable et je ne suis pas pessimiste du tout pour les entrepreneurs actuels parce que de nouvelles opportunités, il va y en avoir. Mmh. Les nouvelles technologies et tout, s'ouvrent des nouveaux métiers tous les jours. Il faut quand même reconnaître que l'État a amélioré les choses. Alors, on râle tous les jours contre l'État, l'administration, etc. Mais là, moi, j'ai pu comparer ce qu'était l'administration et le poids de l'État il y a 20, 30 ans et aujourd'hui, mais c'est, je ne veux pas dire que c'est le Pérou, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des administrations qui sont à l'écoute, il y a des solutions pour créer des entreprises à moindre coût, des opportunités, franchement, aujourd'hui, il y en a, quoi.
Oui, il y a quand même une facilité plus importante pour nous à créer une entreprise. Je vais être caricatural, mais auto-entrepreneur, j'ouvre mon ordi 20 minutes après, c'est fait.
Oui,
alors que vous, c'était beaucoup plus de paperasse et de procédure.
Je me rappelle, pour créer une entreprise il y a 25-30 ans, mais il te fallait 3 mois pour avoir un numéro de registre de commerce. Il te fallait des mois pour ouvrir un compte bancaire. Il te fallait, tant que tu n'avais pas tes référents sur SAF, tu ne pouvais pas travailler. Tu as vu la vitesse à laquelle tout ça va aujourd'hui. Voilà. Et puis, moi qui suis un Européen convaincu, il y a l'ouverture des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton marché, il n'est pas replié en local. Dans le commerce automobile, aujourd'hui, on peut faire du commerce avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Italie, l'Espagne, etc. En fait, il y a et avec toutes les nouvelles technologies, va s'ouvrir plein d'opportunités. Donc, il y a plein d'espoir pour les entrepreneurs.
S'ils ont l'envie, l'audace,
voilà.
Le sérieux, et je sais plus ce que tu as dit en troisième, mais
oui.
Eux, ils s'en rappelleront.
Ils retrouveront.
C'est tout bon ?
C'est parfait.
Ok, super.
Merci.
Merci, papa.
Bon
sur
courage.
Ce, on va manger. Voilà pour cet entretien père-fille qui, j'espère, t'aura été utile, qui t'aura appris plein de choses, beaucoup de choses, pourquoi pas, je l'espère. N'hésite vraiment pas à me dire dans les commentaires, que tu sois sur le blog ou que tu sois sur des plateformes d'écoute de podcast, ce que tu en as pensé. Je sais qu'il y a plein de questions que j'aurais pu lui poser. Malheureusement, ça faisait déjà 45 minutes et j'avais peur que ce soit vraiment très très long. Surtout que, comme tu le sais, je parle beaucoup. Du coup, c'est parfois deux familles. Donc, je me suis dit que si je posais encore 40 questions, on n'allait jamais arriver au terme de cet épisode. Mais bon, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, d'une, si ça t'a plu, et de deux, s'il y a une chose en particulier, ou plusieurs choses en particulier, que tu voudrais creuser, des points que tu voudrais creuser, des choses que tu voudrais lui demander en plus. Je peux tout à fait lui poser les questions et te répondre dans les commentaires. Je peux également refaire un deuxième épisode, un autre podcast sur quelque chose qui sera peut-être plus particulier, je sais pas, sur la gestion salariale, sur la fin de carrière, sur le début de carrière, sur... Enfin bon, peu importe. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça, comme ça, moi je pourrais savoir si tu, entre guillemets, si tu veux un volet 2, si tu veux une suite. J'aurais dû en faire une saison entière, carrément. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu lui demander et que j'ai pas pu te demander. Mais bon voilà, 40 ans de carrière, c'est long, évidemment. Et donc, en 45 minutes, je pouvais pas tout balayer, tout demander et tout voir. Mais je pense, enfin j'espère sincèrement en tout cas, que tu auras quand même retenu plein de choses de ça et que ça t'aura aidé et que ça t'aura apporté quelque chose. De mon côté, je vais du coup conclure ce podcast parce que j'ai très très hâte de rallumer mon ventilateur, puisque au moment évidemment où je t'enregistre cette conclusion, on est en pleine période de canicule, donc c'est comme pour l'introduction, j'ai très très chaud. N'hésite pas, si ce podcast t'a plu, à me laisser 5 étoiles sur iTunes, parce que moi ça m'aide beaucoup, puis toi ça te prend pas beaucoup de temps. Et j'ai oublié de te dire dans l'introduction, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, bien entendu, comme d'habitude, rejoindre la newsletter, tout ça, mais en l'occurrence le groupe privé Facebook, puisqu'au moins tu seras avec d'autres entrepreneurs et ou futurs entrepreneurs, et du coup on peut s'aider, s'entraider. Le but, c'est évidemment de co-construire les réussites, et au moins tu es au courant de tout ce qui se passe, les publications, les sorties, les programmes, les coachings, tout ça. Dernière chose, je n'ai pas encore décidé si je ferai des podcasts cet été, enfin cet été, l'été est déjà bien entamé, on est d'accord, hein, mais pour le mois d'août, tout simplement parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous allez être en vacances, donc j'étais plutôt dans l'idée de partir sur vous produire les articles pour le mois d'août, mais bon. Là aussi, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu veux quand même des podcasts, ou si le mois d'août tu ne seras pas trop branché entre guillemets podcast, et où du coup je produis des articles. Le but, bien entendu, c'est que mes contenus t'aident, voilà, et pas produire des trucs si ça ne t'intéresse pas ou si ça n'arrive pas au bon moment. Bien sûr, je remercie grandement mon père qui a pris son dimanche pour lire mes questions, pour préparer mes questions, pour arriver à synthétiser et avoir vraiment pour le coup l'esprit de synthèse de ses 40 ans de carrière en 40 minutes. Voilà, je le remercie aussi pour le temps et l'énergie qu'il a pris juste avant d'aller manger, puisque nous avons enregistré ça un dimanche soir, donc il y a pris son dimanche, sa fin de journée, et il a supporté la faim pour faire ce podcast. Et comme tu l'auras peut-être remarqué, on entend un tout petit peu les cigales en fond, puisque j'étais du coup dans ma drôme provençale natale pour interviewer mon papa. Donc voilà, j'espère que t'es pas insupporté par les cigales et que peut-être t'auras un peu entendu le sud et les vacances pendant ce podcast. Voilà. Donc, je t'embrasse. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.